Bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous consacrerons évidemment une très large partie de ce journal à l'incendie qui a ravagé hier soir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Incendie maîtrisé ce matin, un symbole de la chrétienté est éventré.
Un symbole aussi du patrimoine français. Vous entendrez des Parisiens et aussi des chrétiens touchés par le drame.
Nous ferons le point sur l'enquête qui débute tout juste. A priori, un chantier sous les toits de la cathédrale aurait pu déclencher ce feu.
Dans cette édition aussi, nous vous expliquerons les difficultés d'entretien d'un tel bâtiment.
Emmanuel Macron doit lancer d'ailleurs aujourd'hui une souscription nationale et internationale pour lever des fonds. Émotion nationale donc et internationale. Notre correspondante à Rome a pu entendre dès ce matin l'émoi des Italiens à la sortie d'une messe. Nous la rejoindrons dans une dizaine de minutes.
Oui, eh bien normalement,
nous allons entendre dans un petit instant Monseigneur Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, qui était hier sur le parvis Notre-Dame à Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris dévorée par les flammes hier soir sous les yeux impuissants de l'archevêque de Paris.
Notre-Dame brûle et la France entière pleure et le monde entier aussi est sous l'émotion extrême. Je reçois des messages du monde entier, de tout le monde. Tout le monde est véritablement bouleversé, bien sûr, nous sommes nous-mêmes complètement chaos.
Les yeux impuissants de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, le feu ce matin, je vous le disais, est maîtrisé par les pompiers. C'est évidemment la principale information de ce début de journée, maîtrisé mais pas totalement éteint. Et déjà la foule de Parisiens, touristes, catholiques ou non, la foule réapparaît ce matin dans les quartiers aux alentours de la cathédrale. Soliane par exemple, rencontrée par Sandrine Etouandegue.
Il est très tôt, j'ai pas beaucoup dormi parce que c'est un monument parisien que je connais depuis que je suis toute petite et que j'étais pas tranquille à l'idée de pas pouvoir suivre ce qui se passait et de pas pouvoir savoir où ça en était. C'était beaucoup d'inquiétude et un certain sentiment d'être abasourdi parce que ça paraît inimaginable en fait. La voir comme ça me rassure quand même, même si on voit d'ici qu'elle est noircie et que... Bah inévitablement il en manque une partie, mais ça me rassure de voir quand même les deux tours qui tiennent et qui ont résisté.
Rassuré de voir que les pompiers ont pu sauver les deux tours et la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle est ce matin éventrée en son centre. Les deux tiers de la charpente ont brûlé. La flèche s'est effondrée en début de soirée hier. Et ce matin, il y a encore des doutes sur la structure du bâtiment. La flèche, donc symbole d'un doigt tendu vers Dieu. Hier, des croyants se sont rassemblés de manière spontanée pour communier et pour prier pour Notre-Dame. C'est ce qu'a constaté hier soir Stephen Goyer.
Ils sont près de 150 rassemblés en cercle autour de deux violonistes les plus proches. À genoux, à 100 mètres, en toile de fond, les deux tours de la cathédrale Notre-Dame retrouvent leur teinte nocturne habituelle après le rouge flamme qui a semblé quelques instants menacer la façade face au parvis au milieu de la foule. Françoise et Bertrand, catholiques pratiquants venus à l'origine pour se recueillir.
Nous on est venus ici parce qu'on avait peur que demain matin on ne retrouve plus Notre-Dame debout.
Que les tours soient par terre. Alors on s'est dit
on veut venir voir Notre-Dame une dernière fois.
Les chants s'arrêtent un instant pour une annonce. La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvées de l'incendie. Les cantiques succèdent aux prières et aux chants à Notre-Dame parmi les chanteurs. Michel, 80 ans, venu de l'Essonne, reprendre un peu confiance après une grosse frayeur.
Ça rassure, ça fait de bon au cœur. Et puis, j'avais presque la larme à l'œil, moi. Pourtant, j'ai bourlingué dans ma vie. Mais moi, ça m'a fait du mal de voir cet incendie.
Nicolas aussi a craint pour la cathédrale, alors pour lui, ce rassemblement entre chrétiens était vraiment nécessaire.
On avait besoin de communier ensemble et de se parler, en fait, ces chants, je pense que c'est aussi la manière de communiquer qu'on avait entre nous pour tous être soudés et dans ces moments un peu où on ne peut rien faire, en fait, on voit Notre-Dame se consumer et on ne peut rien faire, donc la seule manière qu'on a de communiquer entre nous, c'est oui, par la religion et par ce biais-là, ouais.
Et la communion des fidèles s'est poursuivie jusque tard dans la nuit.
De la tristesse communément partagée, mais aussi de la colère. Comment un tel drame a-t-il pu arriver alors que la cathédrale Notre-Dame a traversé 8 siècles d'histoire? Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Ce matin, la piste accidentelle est privilégiée.
Effectivement, une enquête a été ouverte pour destruction involontaire par incendie. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Paris. C'est la piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale qui retient l'attention des enquêteurs. Notre-Dame était en effet en travaux depuis cet été, comme l'attestent les nombreux échafaudages. Un chantier qui devait durer 2 décennies et dont l'objectif était notamment de restaurer la flèche désormais détruite, refaire la couverture de plomb également de la toiture et restaurer les sculptures de cuivre. Les ouvriers du chantier ont été entendus dans la nuit. Le feu a pris des combles vers 18h50 pour des raisons encore inconnues. Il semble être parti au niveau des échafaudages. Pendant plusieurs minutes, on ne voyait de l'extérieur qu'un grand panache de fumée. Et puis très rapidement, les flammes ont dévoré une partie du toit et surtout la charpente longue de 100 mètres. Une charpente baptisée « La Forêt ». Ce qui explique la vitesse de propagation du feu et la violence de l'incendie. Ce matin, l'incendie est maîtrisé, mais pas totalement éteint. Il reste quelques foyers résiduels et les parties encore chaudes doivent être refroidies.
Merci beaucoup Antoine Marette pour ces précisions ce matin. Alors on ne connaît pas encore précisément les dégâts de cet incendie, mais la cathédrale sera reconstruite. Nous la rebâtirons, a dit hier soir Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place, reportant sine die sa conclusion du grand débat national et les mesures qu'il devait annoncer en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. À la place, le chef de l'État a donc promis le lancement d'une souscription nationale et internationale pour trouver des fonds et restaurer la cathédrale.
Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents. Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond.
Une souscription nationale et internationale. Soulignons que la famille Pinault a déjà annoncé débloquer 100 millions d'euros pour participer à la reconstruction de cette cathédrale. Des fonds venus de leur société d'investissement Artemis. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
L'argent pour rénover le patrimoine français et plus précisément la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce n'est pas un problème nouveau.
Ben non, et même depuis des années, l'état de délabrement de Notre-Dame inquiétait. Dans les années 90, la façade ouest, la plus visible, avait été nettoyée, blanchie pour plaire aux yeux des visiteurs. Mais pas la nef, pas les gargouilles qui s'effondrait, pas le chemin de ronde. Par manque d'argent pour le rénover, le monument était en danger, faisant craindre que la structure ne puisse finalement plus porter l'édifice. En mai 2017, un accord cadre avait enfin été trouvé pour un programme de restauration via un financement public-privé de 60 millions d'euros seulement entre l'État, une fondation française et la fondation américaine Friends of Notre-Dame. Trop tard et insuffisant, dénoncent aujourd'hui certaines voix qui affirment que sur la flèche, certaines pierres ne tenaient plus qu'avec du grillage. Et c'est ce qui fait craindre ce matin encore que la structure que l'on pensait sauver hier soir, finalement ne tienne pas. C'est la mise en garde de Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'intérieur.
On reste prudent, il y a des expertises à faire. Un incendie de cette ampleur-là, ça a un impact important sur les structures, donc il faut pouvoir s'assurer qu'elles sont toujours stables. Et déjà, dans un premier temps, pour permettre à nos hommes, aux hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de pouvoir de nouveau pénétrer à l'intérieur. Et sans cette action menée au péril de leur vie, sans doute se serait-elle effondrée.
Les structures de la cathédrale encore instables ce matin, place maintenant au bilan à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cécile, qu'il est encore difficile ce bilan d'évaluer, que sait-on ce matin?
Alors la flèche évidemment haute de 93 mètres datant de la restauration du 19e siècle s'est effondrée avec ses vitraux et ses reliques. L'ensemble de la toiture est sinistrée. Les deux tiers de la charpente qui datait du 13e et du 19e siècle est détruite. Une partie de la voûte est tombée. En revanche, les deux beffrois qui abritent les cloches ont pour l'instant été sauvé. L'intérieur de l'édifice n'a pas été effleuré par l'incendie qui a pris sous les combles. L'autel, les murs, tout est intact, affirmait une députée LREM qui a pu y rentrer. Sauvé également, grâce à l'intervention d'une action d'urgence des pompiers, les œuvres d'art qui étaient dans la partie trésor de la cathédrale, dont la couronne d'épines, qui pour certains croyants aurait été celle du Christ, et la tunique de Saint-Louis. Sauvé aussi, parce qu'elles étaient en restauration, les statues qui ornaient la flèche. Reste ce matin une interrogation sur les roses, ces trois grands vitraux médiévaux gigantesques, et surtout sur le grand orgue dont on ne connaît pas aujourd'hui l'ampleur des dégâts.
Le grand orgue, l'un des plus célèbres du monde, Cécile, avec ses 5 claviers, ses 109 jeux et près de 8000 tuyaux, la voix de Notre-Dame de Paris qui ne sera plus jamais la même. l'orgue de Notre-Dame de Paris, dont on attend encore donc des nouvelles sûres ce matin après ce journal. À 8h30, Lionel Avaux, responsable de l'orgue de Radio France, viendra nous parler notamment de l'orgue de la cathédrale Notre-Dame avec vous, Guillaume Erner. Dans 5 minutes environ, également après ce journal, Stéphane Robert, dans son billet politique, reviendra sur le symbole politique de la cathédrale. Hier, toute la classe politique a fait bloc. La maire de Paris, Anne Hidalgo, dit ne pas avoir de mots assez forts pour exprimer sa douleur. Tous les Français, poursuit-elle, pleurent cet emblème de notre histoire commune. Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a fait part de son immense émotion, le patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, de sa désolation. Et quand Marine Le Pen déplore des dégâts terrifiants, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, se dit sidéré devant un immense malheur. Malheur aussi de l'autre côté des frontières. Les réactions ont afflué du monde entier, des États-Unis aux Émirats Arabes Unis, du Brésil au Canada, d'Israël à la Turquie. Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal, réagit la chancelière allemande Angela Merkel. L'un des premiers à réagir hier a été le président américain. L'incendie ne faisait alors que commencer. Donald Trump a conseillé le recours à des bombardiers d'eau, impossible en zone habitée à Paris donc. Et puis évidemment les catholiques ont pleuré, le symbole de leur foi à travers le monde. Venezuela, Brésil, je vous le disais, au Vatican évidemment. Nous retrouvons d'ailleurs notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Vous vous trouvez ce matin dans une église de la capitale italienne pour la messe matinale. Bonjour.
Bonjour.
Réaction, Mathilde, de sidération face au ravage d'un symbole de la chrétienté.
Oui, effectivement, dès hier soir, le communiqué du Vatican pleurait Notre-Dame, symbole de la chrétienté en France et dans le monde, exprimant incrédulité et tristesse en période de semaine sainte. Qui plus est, Rome se prépare à célébrer Pâques. Des milliers de visiteurs étrangers sont présents dans la capitale italienne ces jours-ci. Alors naturellement, les prières des fidèles ici, les Romains, se tournent vers Notre-Dame ce matin. Je me trouve effectivement dans une paroisse non loin du centre de Rome. Le prêtre de cette paroisse, Père Francis, célèbre la messe bouleversée. Ce matin, on l'écoute.
C'est une immense tristesse pour le monde entier. C'est une construction qui part en flammes, mais c'est surtout notre foi qui est à vif. C'est un symbole. Bien sûr, nous allons prier pour Notre-Dame ici. Et tous les chrétiens se sentent proches de Paris en ce moment.
Alors le Vatican a réagi, pas le pape François en personne qui devrait le faire dans les prochaines heures à l'occasion d'une prise de parole, peut-être demain à l'audience générale place Saint-Pierre.
Et côté italien, Mathilde, ce sont des réactions de solidarité.
Oui, absolument, malgré les relations tendues ces derniers mois entre dirigeants italiens et français, Matteo Salvini, bête noire d'Emmanuel Macron sur le plan politique, propose dans un tweet l'aide de l'Italie si nécessaire. Idem pour le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, qui écrit en français sur Twitter « C'est un coup au cœur pour tous les Européens ». Enfin, dans le concert des messages de soutien, je vous livre celui de Théâtre de la Fénice à Venise, célèbre théâtre parti lui aussi en fumée. En 1996, il a été reconstruit. Nous sommes avec vous les amis. Nous avons brûlé par deux fois, nous nous sommes relevés, lit-on sur le compte du théâtre vénitien.
Merci Mathilde Imberti en direct depuis Rome ce matin pour France Culture.
8h13 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Nous reviendrons sur cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sur ses conséquences dans une dizaine de minutes avec nos invités, l'historien Alexandre Gady, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, spécialiste de politique culturelle, notre camarade François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre, et puis on sera au téléphone avec le vicaire général du diocèse de Paris, Benoît de Cinetti, et avec un organiste, Lionel Avaux, qui jouait il y a quelques jours sur l'orgue de Notre-Dame.
Et l'actualité ce mardi, c'est aussi le procès Mera, procès en appel d'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, auteur de la tuerie de Toulouse et Montauban. On attend aujourd'hui, lors de ce procès, le réquisitoire. Après une dernière journée consacrée aux plaidoiries de la partie civile hier, Florence Turme.
Personne ici ne réclame vengeance, mais on souhaite que la justice s'exprime. D'une phrase, l'avocate de la famille Monsonego résume une ligne force de toutes les plaidoiries. « Il ne vous faut que les éléments au dossier pour vous forger une intime conviction », poursuit la Nietzsche, « ni le chagrin, ni les larmes ». Non, nous ne sommes pas en quête d'un os à ronger, en chérit sa consoeur, Carole Maslia, comme en réponse à la formule employée par Abdelkader Mera. La justice, elle va passer sans pression victimaire, sans pression médiatique. Tour à tour, les avocats l'avocat s'attache à pointer les charges qui pèsent sur l'accusé, tous convaincus de sa complicité dans les assassinats. Les deux frères Mera, c'est la tête et le bras, le cerveau et l'âme, résume Patrick Klugman, l'avocat de Samuel Sandler. Tout le dossier relève du salafisme radical, intervient maître Philippe Soucy. Tout le dossier désigne Abdelkader Mera comme le mentor de son frère. Il ne s'est pas converti à l'islam, il s'est converti au terrorisme. Regard lointain, comme indifférent, l'accusé a posé sa tête sur ses bras croisés sur le rebord du box, attitude identique à celle qu'il observe depuis le début de ses 3 semaines d'audience, même lorsque l'avocat reprend en conclusion ce qu'il avait déjà dit lors du premier procès. Vous rêviez d'un monde sans juifs, sans militaires, sans koufars, comme d'autres ont rêvé d'un monde sans terrasse, mais vous avez perdu et vous vous êtes mépris, car vous n'imaginez pas à quel point nous aimons la vie.
Florence Turme au procès Mera en appel en ce moment à Paris. Le réquisitoire est donc attendu aujourd'hui. Un voile de nuages s'imposera toute la matinée ce mardi de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. De la pluie est prévue sur les 3/4 est du pays. Pluie qui va se décaler un peu plus vers l'est au fil de la journée pour laisser place à de belles éclaircies. Il fait ce matin 10 degrés à Rouen, 12 à Paris, Lille, Besançon et Lyon, 14 à Bordeaux, 15 degrés à Nice.